France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse, désormais le vendredi à 10h. Longtemps, dans l'imaginaire collectif, cet animal eut mauvaise réputation. L'âne, considéré comme bête, sale, méchant, paresseux, lubrique. Un jugement humain qui en dit long sur notre bêtise et notre ingratitude humaine, alors que l'âne domestique n'a cessé de nous rendre des services depuis des milliers d'années. Ce matin, nous recevons le grand historien Michel Pastoureau, qui nous raconte l'histoire culturelle de cet animal extraordinaire, désormais aimé de tous, notamment des enfants. Avec nous également l'écrivaine et journaliste Yolaine Delabigne. Jamais, au grand jamais, je ne leur décernerai un bonnet d'âne. Thibaut de Saint-Maurice et Guillemette Audicino. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Chercheur en philosophie, quel est le menu de votre punchline philo cette semaine?
Eh bien, puisqu'il est question d'âne, on va parler d'un de ses aspects, l'ignorance. Je sais que ça ne s'y réduit pas, mais donc je vais du côté de Socrate qui nous dit « Ce que je sais, c'est que je ne sais rien ».
Bonjour Guillemette Audicino.
Bonjour Ali.
Chef de rubrique cinéma à Télérama, quelle est votre ordonnance de cinéthérapie cette semaine?
Alors vous savez que dans un conte très célèbre, il y a un âne qui fait caca des pièces d'or. Bon, et donc j'ai décidé de parler de l'argent. L'argent.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, l'émission qui donne du sens à votre vie quotidienne.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebéi.
On comprendra aisément que je ne pouvais transporter cet énorme paquetage sur mes épaules de simple humain. Restait à choisir une bête de somme. Le cheval est la jolie femme de la gent animale. Volage, timide, difficile pour sa nourriture et de santé fragile. Il est trop précieux et trop rétif pour être laissé seul, de sorte que vous êtes enchaîné à la bête comme le galérien à son voisin. Il me fallait un animal petit, courageux et peu coûteux, d'un tempérament placide et paisible. Tous ces critères désignaient un âne.
Extrait de Voyage avec un âne dans les Cévennes de Robert Louis Stevenson, c'est lu par François de Brouwer. Un extrait de Samedi Fiction sur France Culture en 2023. Bonjour Michel Pastoureau.
Bonjour.
Je suis heureux de vous retrouver à nouveau dans cette émission. Vous êtes historien reconnu des couleurs et des animaux, directeur d'études émérite à l'école pratique des hautes études. Vous avez occupé pendant 37 ans la chaire d'histoire de la symbolique occidentale. Et vous publiez aux éditions du Seuil un très beau livre richement illustré, L'âne, une histoire culturelle. Racontez-nous votre affection pour l'âne. C'est l'un de vos animaux préférés avec le cochon et l'ours.
Oui, ça date de la petite enfance parce que le fermier qui habitait à côté de chez mes parents en Normandie avait des ânes. Ça n'était pas tellement fréquent à cette époque, dans les années 50. Mais ces ânes ont eu toute ma sympathie de très bonne heure. Ils étaient relativement affectueux, on pouvait les caresser. Il ne fallait pas passer derrière. Mais si on était devant, aucun problème. Et puis je montais dessus, de même que sur les ânes du jardin du Luxembourg, où j'allais très fréquemment avec ma grand-mère. Les promenades à ânes, c'était tous les jeudis et tous les dimanches.
J'ai une image de vous, là, tiens, de vous, enfant sur un âne, Michel Pastoureau. Alors, vous nous racontez dans votre livre une histoire culturelle de l'âne. C'est quoi exactement l'histoire culturelle? Rappelez-nous un peu les tenants et les aboutissants de cette discipline.
C'est une histoire large des représentations collectives, des croyances, des symboles, des superstitions, des faits de langue et de lexique, mais aussi des savoirs. L'histoire de la zoologie fait partie de l'histoire culturelle. Donc la frontière est floue entre ce qui concerne l'âne représenté ou fantasmé et l'âne de la vie quotidienne. Moi qui suis un historien des sociétés et des cultures, je suis obligé de prendre en compte la vie matérielle et l'âne véritable, bien sûr.
Précisons, Michel Pastoureau, que vous vous êtes concentré sur l'histoire et la symbolique de l'âne en Occident, en Europe.
En Europe, oui, non, sans raison, parce que les problèmes que j'évoque à propos des animaux, ou des couleurs d'ailleurs, ce sont toujours des problèmes de société. Les hommes et les femmes sont derrière mes propos, et l'historien que je suis, évidemment, ne peut pas connaître toutes les sociétés de la planète, donc je me limite aux sociétés européennes, ce qui est déjà un gros morceau.
Ce qui me fascine, Michel Pastoureau, avec vos différents livres consacrés au taureau, au loup, au corbeau, à la baleine et aujourd'hui à l'âne, c'est que ça en dit long sur nous autres humains, autant que sur les animaux que vous racontez dans cette histoire culturelle.
Oui, c'est un peu le but d'ailleurs de mon propos, et puis les documents eux-mêmes tirent dans ce sens. Quand les hommes et les femmes parlent des animaux, ils parlent d'eux-mêmes, ils parlent de leurs semblables, ils parlent des sociétés, et ça n'est pas neuf, hein, c'est vrai aujourd'hui, mais c'était déjà vrai dans la Grèce et dans la Rome antique. Il suffit de lire les fables d'Ésope, par exemple, 6 ou 5 siècles avant notre ère, et les fables de La Fontaine reprennent le relais, et puis les proverbes, les faits de langue, les jeux de mots, tout ça conduit jusqu'au XXIe siècle.
Alors, vous le martelez dans votre livre du début à la fin, l'âne n'est pas un cheval au rabais. Et c'est au grand naturaliste Buffon que nous devons le fait que l'âne a une existence propre. Ce n'est pas un cheval au rabais. Ce n'est pas un cheval dégénéré.
Oui, l'âne doit beaucoup à Buffon parce qu'il est le premier parmi les grands écrivains, les grands auteurs qui lui rendent vraiment justice. Buffon est un grand admirateur du cheval auquel il consacre son premier chapitre de son immense histoire naturelle des animaux. Mais l'âne vient au deuxième chapitre et la première phrase c'est « L'âne est un âne et pas un cheval dégénéré ». Et c'est une phrase qui n'a l'air de rien mais qui change complètement le regard et le discours porté sur cet animal. Depuis la Rome antique, on le compare au cheval et dans cette comparaison, l'âne a toujours été perdant. Buffon invite à ne pas les comparer, à en faire deux espèces tout à fait distinctes, et il souligne combien l'âne est un animal qui a rendu d'immenses services à l'être humain et regrette qu'il ait été si maltraité, si déprécié. Il invite à le reconsidérer avec un regard bienveillant.
Bonjour Hélène Delabigne.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste, autrice, conférencière, vous avez notamment fondé l'association L'Animal et l'Homme et vous publiez chez Alizio L'Animal Féministe. Alors vous avez possédé plusieurs ânes, hein, c'est ça, en Bretagne, chez vous. Racontez-nous votre affection pour ces animaux.
Absolument. Alors avant, Ali, je voudrais vous remercier de m'inviter avec Michel Pastoureau parce que c'est vraiment un honneur. Et je remercie vraiment Michel Pastoureau pour ce travail formidable qu'il fait sur les animaux mal aimés, justement les loups, les corbeaux, les cochons. Je pense que c'est très important qu'on ait des perspectives historiques pour défendre ces animaux. Alors oui, j'ai eu des ânes, Ali. Malheureusement, ils sont tous les deux décédés. J'ai eu un petit Justin et j'ai eu un Alphonse, à cause d'Alphonse Daudet, bien sûr, qui est parti l'hiver dernier. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce qu'il a vécu avec nous 27 ans. Et ce sont des animaux, moi j'ai des chevaux, mais ce sont des animaux qui n'ont rien à voir avec les chevaux. Il y a une douceur, alors les chevaux aussi sont très doux, mais ils sont très courageux. Par exemple, quand vous les changez de champ, en général c'est le premier qui arrive tranquille alors que les autres chevaux ont un petit peu peur, etc. Ce qui m'a toujours frappé, c'est l'intelligence incroyable. Par exemple, quand on voulait le soigner, on arrivait avec un médicament dans la poche, l'air de rien, etc. Il savait exactement qu'on avait un médicament dans la poche, donc il partait et il voulait pas se faire soigner. Et puis c'est l'humour. L'humour des ânes, c'est tellement drôle. Ça a une tête géniale, ça vous fait des câlins, ça met la tête sur votre épaule. Enfin, c'est beaucoup de joie, en fait, d'avoir un âne.
L'histoire de l'âne, Michel Pastoureau, c'est l'histoire d'un animal longtemps maltraité et déconsidéré. De quand date cette image négative ? Ça commence dans l'Antiquité, c'est ça ? Et ça dure jusqu'au XVIIIe siècle ?
Oui, ça commence assez tôt, mais ça ne remonte pas à la nuit des temps. L'âne a été domestiqué avant le cheval, quelque part vers 4000 ans avant notre ère, aux confins de la Nubie et de la Somalie, puis s'est diffusé, l'âne domestique s'est diffusé vers le nord, vers l'est, vers l'ouest, et tant qu'il n'avait pas la concurrence du cheval, qui n'était pas encore domestiqué, il a été très bien traité. C'est un animal utilitaire, un compagnon des hommes et des femmes. Et c'est quand le cheval est devenu lui aussi un compagnon que l'âne a commencé à être dévalorisé. On a fait des comparaisons et on a commencé à le maltraiter. Il devient en outre un animal plutôt des pauvres gens par rapport au cheval qui est l'animal des riches. Et ça contribue également à le discréditer quelque peu, notamment à partir du Moyen-Âge.
En revanche, dans l'Égypte pharaonique et dans le Proche-Orient ancien, l'âne jouit d'une certaine considération.
mais même grande considération. On a beaucoup de documents figurés qui nous montrent l'âne au travail, mais l'âne bien traité par ses maîtres ou par les domestiques au service de ses maîtres. De même, quand nous lisons l'Ancien Testament, la Bible est plutôt favorable à l'âne. Posséder des ânes est un signe d'une certaine richesse. Et puis, il y a plusieurs épisodes qui le mettent en valeur, notamment la fameuse ânesse de Balaam, qui est un prophète qui ne voit pas ce qu'il aurait dû voir, alors que son ânesse, qu'il bat, qu'il insulte, elle voit l'ange du Seigneur qui est présent sur le chemin. Donc l'âne, animal prétendu obtus, en fait est clairvoyant.
Yolaine de Labigne, l'âne a souffert d'une mauvaise image alors qu'il a rendu d'immenses services aux humains. L'histoire de l'âne, c'est la longue histoire d'une injustice, fruit d'une certaine bêtise humaine.
Alors absolument, parce que justement c'est ça qui est intéressant chez l'âne, c'est qu'en fait il est très sage, et c'est un animal qui réfléchit énormément, et quand vous lui demandez de faire quelque chose, il va d'abord savoir si c'est intelligent, si cet ordre est intelligent ou pas. Donc souvent quand on dit il est têtu, il veut pas, c'est pas du tout ça, c'est parce qu'en fait justement c'est vous qui lui demandez quelque chose qu'il ne sent pas. Et notamment on sait qu'ils ont une mémoire extraordinaire, donc il va se souvenir d'un chemin dangereux, il va ressentir une météo qui n'est pas bonne, il va voir quelque chose au très loin que vous ne voyez pas. Et donc en fait au lieu de lui faire confiance, de se dire tiens, s'il a pas envie de faire ce que je lui demande, c'est qu'il a raison. En fait, on s'énerve parce qu'en fait, on est des dominants. Et moi, je trouve que l'âne me rappelle beaucoup les chats. Les chats sont très indépendants aussi. On dit toujours les chats, c'est égoïste, c'est ingrat. Non, ça a juste pas envie de se faire dominer par les humains comme le font les chevaux ou les chiens qui sont beaucoup plus dominés. C'est vrai qu'un âne, il faut vraiment travailler avec lui en confiance. Il va vous accorder sa confiance, mais sinon, à moins de le maltraiter, bien sûr, hélas, si vous n'obtenez pas sa collaboration, il n'aura pas envie de travailler avec vous. Évidemment, nous, les humains, ça ne nous plaît pas du tout, parce qu'on aime être obéi d'une manière aveugle.
Michel Pastoureau, dans l'Antiquité, l'âne est très présent, hein, dans les mythes, les croyances, les fables, les proverbes, les œuvres littéraires. Tiens, je prends l'exemple du célèbre roi Midas, affublé d'oreilles d'âne.
Oui, c'est un personnage vedette de la mythologie grecque, différents épisodes qui le concernent. L'un des plus célèbres, c'est Midas qui fait partie d'un jury qui doit décider si la lyre d'Apollon produit des sons plus beaux que la flûte du satyre Marsyas ou du dieu Pan. Tous les autres membres du jury donnent la victoire à Apollon et Midas, lui, donne la victoire à Marsyas. Il a donc mauvais goût. Et pour le punir, le dieu Apollon, qui est un dieu capricieux, le dote d'oreilles d'âne, qui sont signes de son mauvais entendement et son absence totale de goûts musicaux.
Alors, dès l'Antiquité, la symbolique de l'âne est ambivalente. Dans les fables d'Ésope, hein, qui ont inspiré les fables de La Fontaine, dans ces fables, l'âne apparaît maladroit, ignorant, incapable de réflexion. C'est une image davantage négative que positive, Michel Pastoureau ? Comme oui. Si on avait oublié les immenses services que l'âne a rendus aux humains. Mais on l'affuble quand même de cette image péjorative.
Mais c'est le propre de la fable, c'est-à-dire que le péjoratif est beaucoup mieux souligné que le laudatif, en quelque sorte. Quel que soit l'animal ou l'humain concerné, la fable est toujours critique, en quelque sorte. Et alors l'âne n'échappe pas à la règle, et dès Ésope, c'est-à-dire dès des corpus de fables attribués à ce personnage sur lequel nous ne savons presque rien, qu'on appelle Ésope, l'âne est une des vedettes du bestiaire des fables. Le lion, le renard, le corbeau, l'ours, le chien sont les autres. Et tous sont pris plus ou moins en mauvaise part, avec leurs défauts réels ou supposés. L'âne n'échappe pas à la règle. Alors il est désobéissant, il est paresseux, il est lubrique, il est parfois stupide, il est vaniteux. Même un âne porte des reliques. On s'incline sur son passage, il croit que c'est pour l'honorer lui, alors qu'on honore les reliques qu'il transporte.
Allez, elle a également rendu d'innombrables services à l'humanité. Guillemette Odissino et sa cinéthérapie.
France Inter.
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Grand bien vous fasse.
Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement.
Ha ha.
La cinéthérapie de Guillemette Odissino.
Parce que je suis une bête de somme.
Exactement.
Alors, cher Ali, si vous saviez, j'ai failli ne pas pouvoir être là.
Ah.
Au moment de racheter un ticket de métro, impossible, ça bloquait. Et puis mon conseiller bancaire de 26 ans m'a appelé. Catastrophé.
C'est mauvais signe, ça.
Ouais, et moralisateur. J'étais à découvert de 12 euros.
Ah.
Bah, c'est pas bien, Madame Odissino. Bah ouais, jeune homme, j'en suis bien consciente, mais j'avais un petit accord avec votre prédécesseur. Ah bon, il a déjà changé d'agence ? Bon, et encore, dans un an, ça va se durcir. Hein. Donc, plus autorisé, hein, les découverts. Fini les pauvres 200 balles de dépassement avec lesquelles on finissait le mois, enfin, à partir du 15 du mois. Comment va-t-on faire pour rester couvert alors qu'il fait de plus en plus froid dans le monde bancaire ? Il n'y aura plus besoin de regarder des films d'épouvante. Il n'y aura qu'à passer à la caisse avec sa carte bleue. Est-ce que ça va passer ? Tiens-moi la main, chérie. Attention, ne te retourne pas. Je crois qu'on est suivi par un crédit à la consommation. Bon, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, mon thème sera l'argent. Alors, on peut déjà se précipiter en salle, voir La femme la plus riche du monde de Thierry Cliffa, qui montre avec énormément de piquant qu'être milliardaire n'empêche pas d'être frustré. Ou alors se jeter sur The Game de David Fincher.
Que peut-on offrir à l'homme qui a tout ?
Bon anniversaire, monsieur.
Qu'est-ce que vous vendez ?
Un jeu.
Un jeu ?
Alors honnêtement, juste après avoir été encore obligé de ponctionner sur son assurance vie pour alimenter son compte courant, ou on devrait plutôt appeler ça aujourd'hui son compte fuyant, c'est un kiff pas possible de voir Michael Douglas en super riche se prendre, grâce à ce jeu, un tombereau d'emmerde sur la gueule. Et plus il essaye d'exercer son pouvoir, plus il perd le contrôle. Et en plus, il y a un petit cadeau à l'intérieur. Découvrir que le générique de la série Succession, qui elle aussi ne parle que de pognon et d'héritage, à pomper des images sur ce grand thriller anxiogène de Fincher.
Alors, je crois savoir, docteur Odissino, oui, que vous proposez toujours deux styles de thérapie ?
Oui, tout à fait, Ali. On peut donc se réconforter en assistant au cauchemar d'un mec blindé, ou alors s'émouvoir de la vraie précarité, celle qui nous angoisse tous. Et il y a des héroïnes de cinéma dont la combativité nous fait bien fermer nos gueules. Hein. C'est bon, on va pas mourir parce que ce mois-ci, on a dû renoncer à la meilleure marque de beurre bio ou à notre sachet habituel de graines de chia. Et parmi ces combattantes, j'aime par-dessus tout Louise Wimmer. Avec elle, la couleur de l'argent, c'est le rouge de la colère.
Je n'ai pas le temps. On reprendra rendez-vous et jouer le jeu, c'est tout ce qu'on vous demande.
Ah, parce que c'est un jeu ?
Excusez-moi, maintenant.
J'ai pas besoin d'être écouté, j'ai besoin d'un appartement. Pas d'un entretien, mais d'un putain d'appartement !
Restez poli, s'il vous plaît !
Pour ce que ça sert ?
Je vais pas aller plus vite que la musique. Soyez patiente.
Ça fait 6 mois que j'attends.
Soyez moins arrogante, ça ira mieux.
Je suis pas arrogante ! J'en peux plus, c'est tout !
Alors Louise a presque 50 ans, elle bosse comme femme de ménage dans un hôtel et elle dort dans sa voiture. Alors oui, elle a pas le temps d'être sympa, hein, d'accord ? Alors le film de Cyril Méneguin est un coup de poing, où il s'agit de tenir le coup, de ne pas lâcher pour ne pas tomber plus bas, de rester digne et si belle en écoutant les blues de Nina Simone. Corinne Maziero, dans ce premier grand rôle de cinéma, c'était quelque chose de nouveau, hein. Une déflagration, un truc à vous fissurer le 440, avoir envie de danser. Danser, danser, pendant que notre nouveau conseiller bancaire de 23 ans essaye de nous joindre désespérément.
Je rappelle l'ordonnance de cinéthérapie du docteur Odissino, The Game de David Fincher avec Michael Douglas et Louise Wimmer de Cyril Méneguin avec Corinne Maziero. La cinéthérapie de Guillemette Odissino à podcaster et à partager sur l'appli Radio France.
Ali Rebéi.
Non mais t'entends la souffrance ?
Grand bien vous fasse.
Ça doit être l'heure des soins, on va peut-être attendre un peu, non ?
Mais non, Banane, c'est un âne qui braie.
Sur France Inter.
Allez, viens.
Et ce matin, dans Grand bien vous fasse, on se demande ce que les ânes ont à nous apprendre en compagnie de l'historien Michel Pastoureau et avec la journaliste et écrivaine Yolaine Delabigne. Écoutons le micro-trottoir de Noé Brabant dans les rues de Paris la semaine dernière.
L'âne, bah, je crois qu'il est têtu.
C'est un animal qui travaille beaucoup, c'est un animal qui est fidèle.
Pour moi, c'est un animal robuste, un animal fiable aussi, peut-être.
Bah, c'est un animal très doux qui a servi à, qui sert encore à transporter des choses très lourdes et qui est docile, qui plaît aux enfants.
Sympathie.
parce que c'est un animal attachant, qui est plutôt assez sensible.
En tant qu'Africaine d'origine, chez nous les ânes, ils nous aident à faire beaucoup de travaux. Donc ce qui fait en Europe, quand on nous parle des ânes, dans les écoles, on amène les ânes, les animaux, pour que les enfants puissent découvrir et tout.
Si je pense à l'animal de ferme un peu idiot, peut-être on me dit « je suis un âne, t'es un âne ». Peut-être le bonnet d'âne aussi à l'école.
Micro-trottoir signé Noé Brabant. Alors Michel Pastoureau, je signale que vous avez publié « L'âne, une histoire culturelle » aux éditions du Seuil. On va s'intéresser à l'image contemporaine de l'âne, mais arrêtons-nous sur une période que vous connaissez très bien, le Moyen-Âge. À cette époque, comment est perçu l'âne ?
Il est plutôt mal perçu, si l'on en croit les bestiaires et les ouvrages de zoologie. Le catalogue d'adjectifs dépréciatifs qu'on lui associe est considérable. Il est lent, il est obtus, il est paresseux, il est désobéissant, il est lubrique, d'autres encore. Donc la liste est longue et c'est une image très très négative. Mais comme toujours dans les systèmes symboliques, il faut une soupape. Et il y a une image positive qui fait soupape, c'est l'image chrétienne de l'âne, c'est l'animal qui a assisté à la nativité de Jésus avec le bœuf. Et puis un peu plus tard, dans l'histoire du Christ, il a porté Jésus lors de son entrée à Jérusalem, c'est une ânesse dans ce cas-là. Donc ça valorise l'animal. Donc on joue un peu sur les deux tableaux. Mais à l'heure du bilan, le négatif l'emporte sur le positif.
Arrêtons-nous sur les sept péchés capitaux. À la fin du Moyen-Âge, les sept péchés capitaux sont illustrés par des animaux. Alors l'âne représente la paresse avec l'ours et l'écureuil. D'où vient cette image de l'âne paresseux qui est complètement contradictoire avec le nombre de services que l'âne a rendu à l'homme? C'est quand même assez extraordinaire ce décalage. La paresse, alors que c'est un animal qui travaille dur au service de l'homme.
On a les deux volets, hein. C'est toujours comme ça dans le monde des symboles ordinaires. Un animal qui travaille, il peut être travailleur ou il peut être paresseux. Ça se fait en plusieurs étapes, cette image de l'animal paresseux. C'est l'animal, en effet, buté, entêté, donc désobéissant, donc qui refuse de travailler par certains côtés, donc il est paresseux. Et quand, vers la fin du Moyen-Âge, on associe tout un bestiaire aux sept péchés capitaux, aux principaux vices, l'âne, fréquemment, est associé au vice de paresse. Il n'est pas le seul, mais il est fréquemment convoqué.
Yolaine Delabigne, vous avez envie de réhabiliter une qualité de l'âne que vous avez constatée, puisque vous en avez possédé deux, c'est son courage.
Absolument. L'âne est un animal particulièrement courageux et il est très territorial. C'est-à-dire que quand vous avez un cheval, le cheval il est nomade, il ne s'attache pas à un territoire, donc s'il y a un danger, il fuit. L'âne, pas du tout. D'ailleurs, si vous rentrez dans un champ où il y a un âne, il va tout de suite venir vous voir pour savoir si vous n'êtes pas dangereux. Et il peut attaquer, hein. Il peut attaquer des chiens, il peut attaquer des gens qu'il ne connaît pas, et notamment des loups. Et c'est intéressant parce qu'on est en train de faire des expériences, notamment en Maine-et-Loire. Depuis 2021, il y a un couple qui a un troupeau de moutons, et ils explorent, vous savez bien qu'il y a des grands problèmes avec les moutons qui sont attaqués par des loups. Donc ils explorent, ils ont une ânesse, une baudet du Poitou, qui attaque en fait, parce que si jamais il y a des chiens, donc des loups, elle va attaquer pour protéger son territoire et son troupeau à elle. Et j'en profite pour parler de aussi, quand vous demandez qu'est-ce que l'âne peut nous apporter, vous savez que l'âne est très utilisé en médiation animale, ce qu'on appelle l'asinothérapie. Donc quand un thérapeute utilise l'intelligence émotionnelle d'un animal pour aider quelqu'un qui est en grande souffrance, en burn-out, etc., pour travailler sur soi. Et justement, l'âne, avec cette façon à la fois très bienveillante, très pacifiste, mais en même temps de se défendre, eh ben permet de travailler sur votre propre façon de vous protéger. Pourquoi est-ce que vous acceptez de trop travailler? Pourquoi vous acceptez des relations toxiques avec les autres? Pourquoi vous n'êtes pas assez bienveillant avec vous-même? Pourquoi vous n'arrivez pas à protéger votre espace intime? Et du coup, c'est un animal qui aide énormément les thérapeutes.
Alors Michel Pastoureau, au Moyen-Âge, l'âne est donc réputé sale, négligent, stupide, lascif, libidineux. Entre le 15e siècle et le 18e siècle, l'image de l'âne ne s'améliore pas. Il est toujours considéré comme ignorant et obtus.
Oui, il suffit de prendre les fables de La Fontaine, par exemple. L'âne est très fréquent, il y a au moins une vingtaine...
21 fables.
Et le portrait qu'en donne La Fontaine, qui est tributeur de ses prédécesseurs, bien sûr, c'est un portrait très très négatif. Ça va durer jusqu'au 18e siècle, et là on va avoir... timidement au début, puis de manière plus accentuée, une certaine revalorisation de notre animal.
Alors dans les fables de La Fontaine, l'image de l'âne est donc négative, il est réputé stupide, maladroit, incapable de raisonnement et de jugement. Pourtant, Yolaine de Labigne, de nombreuses études montrent que l'âne est un animal très intelligent.
Alors il est très intelligent, comme je vous disais tout à l'heure, il réfléchit beaucoup. Donc ce côté têtu, c'est parce que en fait il réfléchit, il a une stratégie et surtout il a énormément de mémoire, ce qui est un signe d'intelligence. Sans mémoire, vous n'arrivez pas à vous en sortir dans la vie. Donc en fait, il apprend beaucoup des expériences passées et c'est pour ça qu'on sait que il a pas besoin de GPS pour retrouver par exemple chez lui. Il peut retrouver son abri, il peut retrouver de la nourriture. Il a un grand sens de l'orientation qui était d'ailleurs très utile pour les paysans d'autrefois et il est extrêmement sensitif, mais ça comme beaucoup d'animaux, mais il a une utilisation de ses cinq sens que nous n'avons pas. Donc il va repérer des odeurs à des centaines de mètres, il a ses fameuses grandes oreilles, en fait il les balaye pour obtenir des infos, il a une vue extraordinaire, donc il va voir un danger à plusieurs kilomètres que vous n'avez pas vu. Et puis, c'est une éponge à émotion. Il a une intelligence émotionnelle extraordinaire. Quand vous allez le voir, même si vous êtes là à sourire, à frimer un peu en disant « Youp, la vie est belle », lui, il sait très bien dans quel état vous êtes. Si vous êtes stressé, si vous êtes malheureux. Donc, une fois de plus, c'est une grande, grande aide en thérapie parce qu'il a une intelligence qui n'est pas la même que la nôtre. Nous avons une intelligence très abstraite, mais lui, il a une intelligence très sensitive.
Guillemette.
Mais moi, je me demandais justement par rapport à ce truc fou de l'âne est idiot, à quel moment arrive vraiment, est-ce qu'il y a une date sur le bonnet d'âne? Je voudrais savoir qui a inventé ce truc, à quel moment quelqu'un a même, enfin voilà, dessiné un bonnet d'âne ou mis un bonnet d'âne sur la tête d'un enfant.
Ça existe déjà à Rome, dans l'Antiquité, à l'époque impériale, associé un écolier à un couvre-chef qui a des oreilles d'âne. D'ailleurs, traiter quelqu'un d'asinus, d'âne, en latin classique, c'est une injure très très courante, et ça signifie sot, idiot, crétin, on dirait crétin, nous. C'est une injure assez douce, finalement. Il y a bien pire. Donc, ça remonte très haut, ça traverse tout le Moyen-Âge en milieu monastique. Ça n'est pas une pratique très fréquente chez les moines de revêtir un bonnet d'âne, mais ça existe, mais ça se développe, et l'iconographie le montre assez bien, dans le courant du XVIIIe siècle et triomphe au XIXe siècle.
Jusqu'au milieu du XXe siècle, c'est ça, hein ?
C'est ça, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et puis après, en France, en tout cas dans l'école de la République, le bonnet d'âne ne se coiffe plus, mais quelquefois, dans certaines écoles, on en a conservé matériellement dans un coin. C'était le cas dans mon école, rue du Mont-Cy. Il y avait un bonnet d'âne qui traînait, qu'on ne coiffait pas. On allait au coin, dans ma génération.
Thibaut de Saint-Maurice, une réflexion sur l'âne.
Je me demandais si ces compensations, elles connaissent aussi des cycles. Par exemple, je pensais en vous écoutant à la série animée Shrek, voilà, qui renverse un petit peu justement l'imaginaire des contes de fées. C'est un ogre qui et le prince charmant est ridicule et l'ogre va sauver la princesse et tout. Et il a un ami qui est âne justement. Et je me demandais, est-ce qu'on n'est pas entré dans une période où l'âne est plus valorisé et pensé plus positivement? Est-ce que notre monde contemporain, est-ce que vous voyez des signes là dans notre monde contemporain, dans notre histoire contemporaine où l'âne est justement moins déconsidéré?
Oui, j'en vois énormément. L'âne bénéficie aujourd'hui d'un capital sympathie considérable, et il est plus pris en bonne part qu'en mauvaise part. Les vieux clichés n'ont pas complètement disparu, mais on ne les utilise plus. Et c'est assez ancien, cette revalorisation de l'âne, comme je l'ai dit, ça commence fin 18e siècle.
Grâce à Buffon. Hein.
À mon avis, grâce à Buffon, qui est le premier parmi les savants, disons, à tenir un discours positif sur l'âne et à inviter à ne pas le confondre avec un cheval. Hein. La première phrase du chapitre, l'âne est un âne. Ça, c'est une belle phrase quand même. Et puis nos sensibilités contemporaines font le reste. L'âne est une des vedettes animales du cinéma depuis au moins une soixantaine d'années. Hein. On lui rend...
Du Bresson.
Certaine, voilà, oui. Au hasard Balthazar, bien que l'âne soit relativement maltraité et que ça finisse assez mal.
L'âne trop trop, l'âne trop trop, trop trop rigolo. L'âne trop trop, l'âne trop trop, trop trop rigolo. L'âne trop trop, c'est l'ami qu'il nous faut.
Vous connaissez ce dessin animé par cœur, mon cher Thibault ?
Oui, par cœur, et surtout, vous pouvez vous avoir des millions de merci de vos éditeurs et auditrices qui vont avoir la chanson toute la journée dans la tête.
Exactement. Michel Pastoureau, notre regard sur l'âne a changé grâce aux enfants. C'est un animal considéré comme l'animal idéal pour les enfants.
Ça semble dater du milieu du 19e siècle où, dans la vie des campagnes, quand les citadins se mettent à fréquenter la campagne, le cheval permet des promenades d'adultes et l'âne permet des promenades d'enfants, soit à dos d'âne, soit dans carriole. La comtesse de Ségur, dans ses livres, en donne de nombreux témoignages. Et puis, plus tard, dans les jardins publics, dans les grandes villes, la promenade à dos d'âne devient chose fréquente à partir de la fin du 19e siècle. Moi-même, enfant, donc j'ai chevauché les ânes au jardin du Luxembourg. J'avais 4 ou 5 ans.
Alors, dans les livres jeunesse contemporains, l'âne occupe une belle place. Ce n'est pas nouveau. En 1860, la comtesse de Ségur publie les... Ce n'est pas nouveau. En 1860, la comtesse de Ségur publie les Mémoires d'un âne qui mettent en scène l'âne Cadichon. Alors là, c'est un âne savant, espiègle, malin, débrouillard, affectueux et également persifleur et rancunier. Hein.
Oui, il n'est pas tout d'une pièce. Il est quand même ambigu, ce Cadichon. Il est très orgueilleux, il fait des bêtises, il promet de s'amender, il ne s'amende pas. Il y a toutes sortes de choses qui font l'ambivalence. Et c'est ça la richesse du symbole, bien sûr. Le symbole est toujours ambivalent. Je parlais de soupape tout à l'heure. C'est absolument nécessaire pour qu'un système fonctionne. Il faut des contre-exemples et des soupapes.
Michel Pastoureau, l'âne est un animal qui fait rêver. De quoi est-il le symbole ? Que raconte-t-il sur notre époque ?
Il raconte beaucoup de choses, notamment sur la bêtise et la méchanceté de l'être humain. À titre de comparaison, on peut dire que beaucoup d'histoires montrent comment l'animal est bienveillant, l'animal est sage, l'animal est clairvoyant. Et aujourd'hui, c'est l'être humain qui assume toutes les vices qu'on associait autrefois à l'âne. C'est un topos, bien sûr. Il y a d'autres exemples du côté du monde animal, mais ça devient fréquent et, comment dirais-je, ça semble presque justifié. Quand on voit comment l'humanité se comporte, on se dit que, en effet, le monde animal est quand même plus positif et plus bienveillant que le monde humain.
Guy Métodicino.
Oui, mais il y a d'ailleurs un film qui est assez récent qui s'appelle Eo. Alors ça veut dire Ian, hein. Mais Eo de Jerzy Skolimowski, qui est exactement ça, c'est-à-dire l'âne en miroir. D'ailleurs, on voit beaucoup même des images, en fait, vous savez, subjectives, c'est-à-dire, c'est le regard de l'âne, et c'est d'abord les yeux des ânes, excusez-moi, avec les cils, là. C'est encore plus beau que les yeux des vaches. Hein. Bon, mais donc, dans ce film-là, Eo, on voit le monde à travers le regard d'un âne, et on voit la cruauté du monde à travers le regard d'un âne, et c'est vraiment, mais cet effet de miroir, plus l'âne est sage, et prudent, et plus en face l'humanité est folle et cruelle, c'est parfait.
Rappelez le titre.
Eo, Jerzy Skolimowski.
Yolaine Delabigne.
Alors, vous venez de parler de la beauté de l'âne. Je pense aussi qu'un de ses succès, c'est qu'il a une tête de peluche quand même. C'est une grosse peluche qui est forcément séduisante avec ses grands yeux bordés de kaolin. Et puis, il y a ce que je trouve intéressant chez l'âne, c'est que c'est un animal exigeant. C'est-à-dire que il va pas vous accorder sa confiance comme ça. Michel parlait tout à l'heure d'un âne qui a aussi des défauts, mais là aussi c'est un animal comme nous sommes tous, hein, des animaux humains. Il y a des ânes qui sont plus ou moins sympas, plus ou moins solitaires, plus ou moins. Donc il faut aussi qu'on comprenne l'âne tel qu'il est, qui est un animal avec une très forte personnalité. Et cette faculté de raisonner avant d'agir, Je trouve qu'elle est hyper intéressante parce que il y a assez peu d'animaux comme ça, en tout cas qui le montrent, et lui le montre. Et donc je trouve que ça nous... Oui, c'est vraiment un miroir de nous-mêmes, ça nous fait nous poser beaucoup de questions sur nous-mêmes.
Alors j'aimerais qu'on s'attarde sur une œuvre littéraire qui met en scène une ânesse. C'est Le voyage avec un âne dans les Cévennes de Robert Louis Stevenson, qui raconte la célèbre randonnée de l'auteur de Dr. Jekyll et Mr. Hyde dans les Cévennes avec son ânesse du Monastier. Et pour en parler, j'aimerais qu'on accueille Christy Lapelle-Edouelle. Bonjour.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste et conférencière. C'est une œuvre qui ne cesse de vous inspirer, que vous adorez, Christy Lapelle-Edouelle, ce voyage avec un âne dans les Cévennes.
Mais il faut bien reconnaître que d'abord il y a le style de Stevenson, mais aussi toutes les circonstances dans lesquelles il a entrepris ce voyage, qui était quand même quelque chose, parce qu'il est parti du Monastier à côté du Puy-en-Velay. Où il a acheté son ânesse, Modestine, et puis ils ont parcouru absolument tout le chemin jusqu'à Alès. Et pour aller jusqu'à Alès, il faut passer par le Gévaudan, il faut passer par plusieurs côtes énormes. Et quand il est arrivé au Monastier, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait absolument pas seul, parce que Stevenson était un très grand marcheur, il ne pouvait pas seul faire ce périple sans avoir un âne pour l'aider à tout porter. Et donc il a acheté Modestine à quelqu'un au Monastier, et c'était une petite ânesse, petite de taille, et au début, ça n'avait pas très bien s'y prendre, Stevenson, avec la petite Modestine, mais au fur et à mesure qu'ils ont marché, alors d'abord, au début, elle n'avançait pas, elle était un peu cabocharde, et puis, au fur et à mesure, ils sont tombés dans une auberge où l'aubergiste a eu l'idée de fabriquer une espèce de pic qu'il a donné à Stevenson, en lui expliquant qu'il fallait piquer les flancs de l'ânesse. Et c'est ce qu'il a fait. Et là, on se rend compte à quel point, en effet, je vous entendais en parler, à quel point les animaux n'étaient pas bien traités. Enfin, il parle à un moment donné du sang qui s'écoule de la petite pique qu'il lui donne dans les flancs. Donc Stevenson y compris. Et il a fallu tout le voyage, ce qu'il raconte de manière vraiment merveilleuse, il a fallu tout le voyage pour que l'attachement entre lui et Modestine apparaissent, et la fin est splendide. Il finit donc par arriver, puis il termine le voyage en calèche, et il la vend. Il la vend avant d'arriver à destination, et il dit, quand je l'ai vendu à mon tour, je fus tenté de pleurer, et comme je me trouvais seul avec le conducteur du coche et 4 ou 5 braves jeunes gens, je n'hésitais pas à céder à mon émotion. Donc, il confesse cet attachement et cette affection qu'il avait pour cette ânesse dont il loue la jolie robe grise. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce périple, cette amitié entre Stevenson et son ânesse. C'est vraiment tellement beau.
Yolaine Delabigne.
Alors moi, j'ai pas du tout la même interprétation. Je trouve que c'est terrible, justement. D'ailleurs, Éric Baratet, qui est l'historien des animaux, a raconté cette histoire vue du regard de l'ânesse. Et en fait, ce n'est que souffrance et exploitation. Je trouve que Stevenson, justement, c'est horrible. Il la martyrise. C'est une ânesse qui est petite, donc il exige des efforts surhumains. Et la seule chose qu'il lui fait à la fin, c'est de la vendre, quoi, pour qu'elle soit à nouveau exploitée par quelqu'un d'autre. Pour moi, cette histoire est la symbolique typique de la mauvaise compréhension d'un être humain par rapport à un animal qui est merveilleux. Et au lieu d'essayer de le comprendre, ce qu'on disait tout à l'heure, au lieu d'essayer de collaborer avec son ânesse et de la comprendre, en fait, il la pique et il la martyrise.
Christy, là, vous n'avez pas exactement la même interprétation.
J'ai pas du tout la même impression. Et d'ailleurs, j'ai précisé qu'en effet, au début, d'abord, il ne sait pas du tout comment marche, si j'ose dire, un âne. Il la maltraite, en effet, mais jamais dans le texte il ne dit, traite d'animal, d'âne batté ou de choses comme ça. Et l'histoire de la pique est tout à fait exacte, il en parle, mais au fur et à mesure qu'il avance, les choses changent et la relation s'instaure vraiment entre les deux. Donc moi, j'ai pas du tout lu la même chose, j'ai lu une progression entre les deux. Ce qui est vrai, c'est que au 19e siècle, les voyages avec les animaux, que ce soit des chevaux ou des ânes, les animaux n'étaient pas bien traités. On le sait, quelle que soit la classe sociale, et les ânes étaient par définition utilisée par les classes les plus laborieuses.
Vous forgerez votre propre opinion en lisant Voyage avec un âne dans les Cévennes, l'arbitre des élégances peut-être, Michel Pastoureau ?
Il ne faut pas oublier que Stevenson est de son temps, pas du nôtre. Ouais. Hein. Et maltraité, ça n'a pas tout à fait le même sens dans les années 1870 et aujourd'hui. Et donc le comportement de Stevenson est banal par rapport à l'époque. Mais comme on l'a dit, il y a quand même une progression. Au début, il y a mésentente et puis ils s'habituent quand même l'un à l'autre. Mais on a la même dureté. Par exemple, moi j'aime beaucoup L'île au trésor, qui était un de mes livres préférés de Stevenson quand j'étais enfant. Mais il y a beaucoup de brutalité dans L'île au trésor, y compris de la part de personnages pris en bonne part.
Mais je voudrais juste savoir, est-ce que la symbolique de certains animaux maltraités, disons même voilà, dans les livres, etc., a changé à partir du moment où on s'est mis à vraiment s'intéresser à l'animal réel. Est-ce que c'est à un moment, quand il y a eu vraiment de la zoologie poussée, qu'il a fini par devenir aussi sympathique que maintenant ? Est-ce que c'est lié aux études, en fait ?
Oui et non. Déjà, qu'est-ce que l'animal réel ?
Oui.
Tout notre savoir, y compris en 2025, sur le monde animal, sont des savoirs vus par l'être humain. Hein. C'est l'être humain qui observe les comportements animaux, qui organise les tests, les expériences et qui en tire les conclusions. Qu'est-ce que ça nous apprend vraiment sur l'animal ? On peut relativiser, hein, mais on ne peut pas faire autrement. Donc, et je ne pense pas que les deux mondes se rejoignent complètement. C'est-à-dire que l'observation de l'animal réel, entre guillemets, change l'animal mythologique, fantasmé, symbolique. Ça n'élimine pas cet héritage qui vient de très très loin, mais on le convoque moins, si je puis dire. Mais il est toujours là. Hein. L'âne stupide, l'âne qui est entêté, l'âne paresseux, ça reste sous-jacent et ça peut ressortir un jour. D'ailleurs, n'oublions pas que nos successeurs, dans quelques siècles, ricaneront de tout ce que nous racontons aujourd'hui.
Quelle modestie, quelle humilité. Merci beaucoup, Christina Pelledouelle. Répondons peut-être à la question de notre émission. Qu'est-ce que les ânes ont à nous apprendre, Michel Pastoureau ?
Ils ont beaucoup à nous apprendre, comme tous les animaux, et spécialement les animaux domestiques qui vivent au contact de l'être humain. Donc, ils nous connaissent bien et ils sont à même de nous faire prendre conscience à la fois de nos comportements, de nos qualités, de nos défauts. Des animaux sont plus ou moins porteurs de ce sens, mais moi qui ai beaucoup travaillé sur le corbeau, un animal qui a toute ma sympathie, je suis arrivé à la conclusion que l'animal qui connaît le mieux l'être humain, c'est le corbeau qui est constamment là à l'observer, à l'imiter et à s'adapter. Aujourd'hui, dans tous les tests sur l'intelligence animale, c'est lui le premier de la classe. Donc, ça pourrait nous aider à nous corriger, si je puis dire. L'image que nous renvoie l'animal est parfois une image négative. Donc, on pourrait penser que l'être humain va s'améliorer et malheureusement, ça n'est pas le cas.
Yolaine Delabigne, en quelques mots ?
En quelques mots, savoir raisonner avant d'agir, savoir repérer les gens toxiques, mettre de la distance, savoir se protéger soi-même, c'est beaucoup de choses. Je pense que c'est pas évident pour nous de savoir faire tout ça.
France Inter.
Nietzsche, allez.
Rends bien vous face.
L'homme qui a dit mort est pareil au chien qui mord une pierre.
Qu'est-ce qu'il dit ?
Il dit que l'homme n'est pas toujours un loup pour l'homme.
Ah bon ? Si.
Ben si.
Alors, cette semaine, Thibaut de Saint-Maurice, dans votre punchline philo, on retrouve Socrate, le père de la philosophie classique, pour une punchline très célèbre. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien.
Oui, Ali, je me suis dit qu'à la fin d'une émission sur l'âne, donc cet animal que l'on associe si souvent à l'ignorance et à la bêtise, eh bien, c'était précisément pas bête de réfléchir un peu à cette question de l'ignorance. Alors, rendez-vous compte, Socrate lui-même, hein, le père de la philosophie classique, celui que l'on continue de lire et d'étudier 25 siècles plus tard, affirme non pas une fois, mais plusieurs fois, et même régulièrement au cours de ses nombreuses conversations, qu'il ne sait rien. Le même Socrate qui avait été désigné par l'oracle de Delphes comme l'homme le plus sage parmi les hommes, eh bien il confesse son ignorance, il dit, soutient et répète qu'il ne sait pas, il revendique même cette ignorance. Alors dans la vie, il y a trois sortes d'ignorants, je crois, et je suis sûr que vous les avez déjà toutes et tous rencontrés. Il y a celui qui ne sait pas et qui ne sait pas qu'il ne sait pas. Alors, chez les enfants, ça s'appelle de l'innocence, et c'est assez mignon. Et chez les adultes, ça devient de la naïveté, et c'est parfois plus problématique. Il y a aussi, après, deuxième catégorie, celui qui ne sait pas, mais qui croit savoir, ou qui veut donner l'impression qu'il sait. Et ça, ça s'appelle la bêtise, et c'est assez pénible. Et enfin, il y a celui qui ne sait pas, mais qui sait qu'il ne sait pas, et qui donc ne fait pas comme s'il savait. Et qui va donc questionner et chercher à savoir. Et ça, ça s'appelle la curiosité ou la capacité à s'étonner et le désir de savoir. Socrate se range évidemment dans cette troisième catégorie en avouant son ignorance.
Et fait preuve donc d'une certaine forme d'humilité.
Oui, et avant même d'être une éthique, cette position de Socrate, elle est tactique. Et c'est une tactique redoutable. Parce que Socrate s'en sert pour débusquer tous ceux qui pensent avoir réponse à tout et tout savoir sur tout. En avouant dès le début de la conversation que lui, il ne sait pas, il invite ceux qui croient savoir à dérouler leur certitude. Et ensuite, patiemment, il va les questionner, les tester, en pointer les tensions et les contradictions. Et peu à peu, il parvient comme ça à détruire les croyances et donc à dégager, comme quand on dégage le chemin d'une grosse pierre, voilà, à dégager le chemin de la vraie connaissance. Alors, vous pouvez faire ça chez vous. Hein. D'ailleurs, moi, je vous y invite, c'est assez drôle. Déjeuner de famille, par exemple. Quand vous êtes confronté à un ami, à un voisin ou à un membre donc, de la famille qui a des idées bien arrêtées que vous ne comprenez pas, au lieu d'aller directement à la confrontation, donc hein, croyance contre croyance, opinion contre opinion, avouez dès le début votre ignorance. Et du coup, questionnez. Demandez des approfondissements. Quelles sont les sources? Quelles sont les conséquences de ce qui sont affirmés? Et vous verrez que de cette manière, c'est assez facile de faire s'écrouler les croyances qui sont souvent bien fragiles quand elles ne sont pas justement fondées sur des raisons convaincantes. Et au contraire, si elles ne s'effondrent pas, alors vous aurez appris quelque chose. Ce que j'aime bien donc, c'est qu'avec cet aveu, ce que je sais, c'est que je ne sais rien, Socrate change de statut de l'ignorance. Ce n'est pas l'ignorance qui est un défaut, c'est le fait de ne pas en avoir conscience. Parce que si on n'en a pas conscience, alors on peut croire que l'on sait à peu près n'importe quoi. La sagesse de Socrate, c'est donc une forme de prudence et de modestie. Avant de dire qu'il sait quelque chose, il veut discuter, examiner, questionner, comprendre par lui-même ce que les uns et les autres affirment à l'emporte-pièce. Reconnaître son ignorance, c'est pas abandonner la vérité, c'est se donner la chance de la vérité. Alors, n'ayons plus peur de dire « je ne sais pas », puisque à partir du moment où on le dit, ce n'est plus un défaut ou un reproche, mais le début de la sagesse. Et si je ne sais pas, c'est que j'ai encore tout à apprendre.
Et grâce à Thibaut de Saint-Maurice, de beaux déjeuners de famille et entre amis en perspective. Merci. Thibaut, un mot peut-être,
pas,
Michel
moi.
Pastoreau.
Ah non, je partage tout à fait les propos qui viennent d'être tenus et en effet la vraie sagesse, mais qui en effet est aussi une stratégie, c'est de prendre conscience de ce qu'on ne sait pas, de le reconnaître et d'agir en conséquence.
Les punchlines philo de Thibaut de Saint-Maurice à podcaster sur l'appli Radio France. Et n'oubliez pas ce soir à 20h, l'heure philo avec notre camarade de Patricia Martin. Merci aux amis du vendredi, Thibaut et Guillemette. Merci beaucoup Yolaine Delabigne. Merci beaucoup Michel Pastoureau. Je recommande vivement la lecture de L'âne, une histoire culturelle, publiée au Seuil. Un très beau cadeau de fin d'année. Merci Michel d'être passé.